Et donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène, et je ne veux pas faire de faute avec leur nom, Julien Doche et Sabrina Andiapan. Ils sont là, voilà, super. On peut les applaudir, et également Toufik Valipuram pour la modération. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais me mettre ici. Je suis en direct, hein. La régie, ça vous va si on se met ici? Super, merci, je complique un peu la tâche. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors on va commencer d'abord par les mauvaises nouvelles, c'est qu'on a un peu moins de temps que prévu. Voilà, donc la séquence va être raccourcie. C'est comme ça, c'est les joies du direct. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir quelques surprises, hein, aujourd'hui. Et surtout, que, ben, avant d'entendre Sabrina et Julien, on va d'abord vous laisser vous exprimer. Alors, comme j'ai dit qu'il y avait du retard, forcément, la séquence de questions que j'avais envie de vous proposer maintenant va être raccourcie, mais ce n'est pas grave. Nous allons prendre quelques minutes pour que vous puissiez répondre à une question. Quels sont, selon vous, les enjeux qui sont importants et que vous souhaitez voir être discutés aujourd'hui? Alors, j'ai une petite règle quand même. Je tiens le micro et je suis l'arbitre aujourd'hui, donc vous ne pourrez pas déroger à cette règle, tant pis. C'est que dans les questions que vous allez pouvoir poser, je souhaite absolument qu'il y ait une alternance femme-homme dans les questions. Voilà. On pourra en reparler pendant la pause déjeuner, parce que ça, c'est la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que la pause prévue juste après cette séquence est raccourcie afin que nous enchaînions sur la suite du programme. Donc, il y a Laura à ma droite et Lola à ma gauche qui ont des micros. Vous pouvez lever la main et nous dire quels sont les enjeux, quelles sont les questions que vous vous posez en venant ici. Et ensuite, Sabrina et Julien vont pouvoir répondre et peut-être même qu'ils auront des questions pour vous. Donc vous avez juste à lever la main et y aller. Et oui, pardon, quand vous prenez la parole, vous donnez votre prénom. Si vous n'avez pas envie de donner votre vrai prénom, vous pouvez inventer un prénom, il n'y a pas de problème. Et s'il vous plaît, posez des questions courtes, de manière à ce qu'on puisse faire circuler le micro. Bonjour.
Bonjour, donc je suis Pierre, je suis un homme. Voilà. Et non, c'est pour la suite. Hein. Et non, donc moi, concernant les enjeux, en fait, je pense qu'il faudrait essayer de découpler deux choses. Pour moi, l'activité spatiale, elle a un impact énergétique très important. Donc, c'est une consommation d'énergie qui est liée principalement au lancement. Donc, un kilo lancé en orbite, c'est entre 50 et 90 kilos de propellant, d'ergol consommé. Donc, c'est un vrai problème. Et ensuite, l'autre problème pour moi, si on se pose la question d'un point de vue environnemental, c'est les satellites qui retombent dans l'atmosphère. Alors, pas tant ceux qui tombent au sol, parce qu'on sait qu'ils y arrivent rarement, mais plutôt ce qui se passe sur les couches supérieures de l'atmosphère. Donc, voilà, la protection de l'environnement autour du spatial devrait d'abord se poser la question de pourquoi je mets 1 kg en orbite et pas 100 grammes, pourquoi je mets 200 kg en orbite et pas 20, et ensuite se poser la question de chaque satellite qui revient et qui brûle entre guillemets dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y dépose, et tout ce qui va avec, puisque donc le lanceur en traversant l'atmosphère lui aussi il y a un impact environnemental non négligeable. Voilà, moi c'est ça un peu ce que je voudrais voir, et je pense que les kilos et les kilos qui sont lancés en orbite. Alors, la question a été posée à l'instant, hein, mais il ne faut pas oublier que là, si tout s'accélère, ce n'est pas les méga-constellations, c'est une méga-constellation, elle s'appelle Starlink, et aujourd'hui, elle représente 80% de la masse lancée. Donc, c'est vraiment, vraiment important de garder ça à l'esprit. Et puis, l'autre problématique, on a eu le rêve,
Je vais dire une question,
oui,
Pierre. Hein.
Voilà, le vol habité, c'est toujours important. C'est ce qui aussi consomme énormément d'énergie. Il faudrait peut-être se poser la question de savoir pourquoi. Voilà.
Merci Pierre.
Excusez-moi, j'étais un peu long.
Il n'y a pas de problème. Est-ce que, à ma droite ou à ma gauche, il y a des mains qui se lèvent? Alors oui, il y a une dame juste là, Laura. Ah, c'est bon, Clotilde a un micro. Merci Pierre. On va traiter ces questions.
Bonjour, je suis Camille. Donc, il faut une femme. Donc, je vais faire ça. Une question très courte. Et enjeu environnemental, c'est un sujet mondial. Étant comme la France, comment. En tant que nation assez forte dans le secteur spatial, comment on peut jouer notre puissance, notre développement au niveau spatial pour réagir sur ce enjeu? Merci.
Merci beaucoup. Et je précise que nos intervenants ne pourront peut-être pas répondre à toutes les questions, mais que c'est important de les poser là maintenant, puisqu'on va pouvoir les intégrer pour la suite des discussions.
Merci. Bonjour, je m'appelle Josua. Moi, une question qui me taraude, c'est comment est-ce qu'on fait pour accéder aux données ? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elles ne sont pas très accessibles. Et Lionel Suchet disait justement qu'il faut qu'on objective ces connaissances-là sur les impacts environnementaux du spatial en général et des satellites. Mais j'ai l'impression que les données ne sont pas très accessibles aujourd'hui. Idéalement, il faudrait qu'elles soient transparentes et en open source.
Merci, Josua. On va attendre qu'il y ait une question. Ça peut être un besoin de clarification aussi, hein, pas forcément une question. On a, Clo... ouais, vous allez attendre un petit peu. Voilà, c'est la règle. Donc ça peut être une remarque, une question, un besoin de clarification. Clotilde, derrière toi.
Bonjour Marguerite. Moi, je me pose la question des usages et de la priorisation qu'on va faire de ces usages, parce qu'on comprend que tout ce qui est spatial, tous les enjeux spatiaux ont un impact environnemental très très important. Et du coup, en faisant aussi le parallèle avec le numérique, est-ce qu'il y a des moments où on va pouvoir remettre en question l'utilité de lancer tel ou tel satellite, et se poser la question est-ce que c'est vraiment utile du coup pour l'humanité finalement.
Merci Marguerite.
Oui, bonjour. Eric, oui, donc moi ma question ça serait sur la régulation et ce que peuvent faire les régulateurs des différents pays alors qu'on a affaire à des compagnies, des sociétés internationales et qu'il n'y a pas de police de l'espace actuellement.
Merci Eric. On va prendre deux dernières questions. J'ai vu que vous étiez là. Et vous prendrez la dernière question. Il y a une question juste avant.
Bonjour Marlène. Pourquoi les activités spatiales télécom ne sont pas incluses dans le scope numérique ?
Merci Marlène.
Donc moi c'est Renaud. Ma question est un peu en rapport avec ce qui vient d'être dit sur les usages. J'ai l'impression que les usages commerciaux sont en grande partie responsables de ce déploiement de satellites en constellation basse, à orbite basse. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne peut pas prioriser les usages ? Est-ce que le commercial a tous les droits sur l'espace ? Et plutôt l'usage commun, le bien commun pour un État, pour des agences comme la nôtre, aurait pas la priorité sur l'usage de ces constellations.
Merci beaucoup. Merci pour ces premières questions. Si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser ou que vous n'avez pas voulu poser, il y aura d'autres moments dans la journée pour le faire. N'hésitez pas à les garder soit dans un coin de vos têtes, soit pour les marquer. Et puis également les moments d'interaction au cours desquels vous pourrez discuter avec les unes et avec les autres. Je note, peut-être pour récapituler, avant de laisser la parole à Julien et Sabrina, j'ai retenu globalement quatre grandes catégories. Il y a une première qui s'intéresse à la question des usages, de la priorisation des usages. Il y a une deuxième catégorie de questions sur l'accessibilité des données. Il y a une troisième question qui a été posée par Pierre ici, qui est plutôt très focalisée sur la question environnementale, avec notamment bien décorrélé les enjeux liés au lancement, les enjeux liés au retour sur Terre ou pas. Il y a une quatrième et une dernière question qui est une question liée à la régulation, et notamment les enjeux de régulation entre la France toute seule dans son coin, l'échelle européenne, l'échelle internationale, qu'est-il possible de faire ? Julien, Sabrina, bonjour. Vous avez la lourde tâche de répondre à ces questions, en tout cas aux questions auxquelles vous souhaitez répondre. Je ne vais pas vous présenter, si ce n'est que je peux dire, c'est les quelques mots qui sont marqués là en disent un peu et pas assez sur vous. Je vous laisse répondre aux questions de votre choix. Sabrina, peut-être que tu veux commencer ?
Oui, ça marche ?
Oui, c'est bon, parfait, merci. Bonjour à tous. Alors, c'est une sacrée question, dis donc, je ne sais pas si nous, on va réussir à tout répondre, mais je pense qu'avant de commencer un peu le débat, c'est de se poser la question, est-ce que déjà satellite et environnement, c'est deux mots qui vont ensemble ? Je pense que notre industrie a commencé au début, on ne se posait pas forcément la question de quand on a voulu envoyer les choses dans l'espace, quand on a voulu explorer, ça fait aussi écho à ce qui a été dit ce matin. Je pense qu'on ne s'est vraiment jamais posé la question dans notre industrie, est-ce qu'on fait ça de manière consciencieuse avec l'environnement ? Donc c'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout de suite demander à notre industrie d'un coup de penser tout de suite aux questions d'environnement, même si bien sûr il faut commencer quelque part. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en perspective, je pense, pour commencer. On est tous les deux d'ailleurs, on travaille tous les deux, on est tous ingénieurs spatiaux. Est-ce que nous aussi, on n'est pas un peu schizophrène en se disant « oui, j'ai envie de faire attention à ce que je fais », en même temps, comment ? Donc, je pense qu'il y a deux questions déjà. Moi, je vais reposer des questions. C'est pourquoi on fait du spatial ? Et ça a été déjà répondu. Et déjà, la deuxième partie, c'est comment on va le faire ? Et je pense que finalement, les méga-constellations nous font poser la bonne question. Avant, ce serait peut-être que s'il n'y avait pas eu ce phénomène à échelle beaucoup plus grande, on ne se serait pas dit « ah bah du coup, on aurait continué le spatial tel qu'on le connaissait ». Peut-être qu'il y aurait des régulations, mais peut-être pas au niveau auquel maintenant on se dit bah « maintenant, il faut vraiment qu'on agisse ». Et finalement, ce sujet va impacter comment on va faire, même les missions scientifiques qui servent bien sûr pour l'observation de la Terre, pour regarder l'espace, etc. C'est des belles missions, mais toutes les missions à partir de maintenant devraient se poser la question de comment, en fait, on devrait faire ça pour que ce soit plus... on va dire, je vais parler à moitié en anglais, sorry, environmental friendly. Et en fait, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de se dire, finalement, à notre niveau, on parlait de façade, de boule à facettes, quel angle prendre pour se dire, quelle serait la lecture, de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire vraiment faire attention à l'environnement pour le spatial. Je vais te passer la main.
Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Julien Doche, je suis également un professionnel du secteur spatial, membre de plusieurs associations, donc Point Réveil écologique et Héros des Carbos. Et malheureusement, je ne suis pas expert de ces sujets, je travaille au quotidien sur d'autres sujets, donc je n'ai pas forcément toutes les réponses à vos questions, mais je peux que constater qu'elles sont pertinentes et qu'elles rejoignent exactement certaines de celles qu'on pose nous-mêmes en tant qu'associatifs au secteur spatial. En particulier, on est en train de travailler sur un rapport avec Point Réveil écologique qui a pour but de titiller un peu le secteur, de leur demander, tiens, où est-ce que vous en êtes, vous, sur la question de la transition écologique, parce qu'on le sait, du coup, on vit dans un monde contraint par les ressources qu'on a, par les émissions qui nous restent à disposition. Donc effectivement, on est dans un monde contraint. Certes, on peut nous répondre que le spatial en absolu, c'est des émissions qui sont relativement faibles. Pour autant, on a parlé un peu de la croissance du secteur. Donc ça pose réellement des questions sur voilà, comment est-ce qu'on va utiliser les ressources qu'on a, à quelle fin. Donc voilà, ça pose vraiment la question des usages. Et finalement, dans tout ce rapport, où effectivement on met en valeur certains phénomènes plus ou moins complexes et plus ou moins incompris jusqu'à maintenant, je pense en particulier aux émissions de particules dans la haute atmosphère, auxquelles il faudra attendre des experts renommés comme M. Miro, qui nous fera la chance d'intervenir cet après-midi. Nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est questionner quelle est l'utilité finale des projets et au regard de leur coût environnemental. Donc c'est vraiment essayer de questionner quels sont les bénéfices sur quels sont les coûts. Quels sont les bénéfices ? Là, il y a une réponse qui est... Il y a des choses qui, on le sait, sont très utiles, et je pense que c'est assez... Enfin, il y a un consensus fort. On parle souvent des satellites qui quantifient le changement climatique. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, par les variables climatiques essentielles qui récupèrent, qui est très utile. Il y a d'autres choses sur lesquelles on est dans une zone de flou, voire on sait que c'est quelque chose qu'on veut éviter. Et là, on pense forcément aux méga-constellations, mais également au tourisme spatial. Et il y a aussi pas mal d'activités qui sont une zone de flou où on peut se dire, quelle était l'utilité sociale réelle de ces choses ? Est-ce qu'on veut vraiment dépenser des ressources, une humanité, sur ces activités-là ? Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, si on veut vraiment faire cette analyse coût-bénéfice, c'est essayer de quantifier correctement les coûts. Et donc ça implique d'avoir des bases de données qui sont complètes. On en parlait dans les questions, c'est de quantifier les phénomènes que j'évoquais à l'instant sur les particules, c'est savoir quelle est la composition de ces satellites pour comprendre un peu comment tout ça marche. Et donc il y a un ensemble de questionnements qui effectivement commencent à arriver, mais c'est très lent. Le CNES effectivement se positionne sur un certain nombre de choses, mais encore une fois, et c'est la position qui est peut-être un peu taquine du collectif, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, le spatial est un grand oublié de la décarbonation.
Tu parles de ce rapport qui n'est pas encore sorti, qui va sortir dans quelques mois, quelques semaines. J'ai eu la chance de pouvoir y jeter un petit coup d'œil. Il y a quand même pas mal de choses qui m'ont marqué. Je ne sais pas à quel point vous ici, vous êtes expert de... quel est le niveau d'expertise ou de connaissance de cette industrie, mais il y a un point sur lequel il me semble important de revenir, parce que, en tout cas, moi, je ne l'avais pas forcément en tête il y a quelques mois, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet aux côtés des équipes de l'ARCEP, du CNES et de l'ADEME, c'est la structuration du marché spatiale entre d'un côté ce qui est en amont et ce qui est en aval. Et en fait, puisqu'on parle beaucoup de données et d'usage et de régulation, il se trouve quand même qu'une grande partie du marché d'un point de vue économique il se situe en aval. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, je suis allé consulter les différents rapports. Donc, si vous tapez Space Economy Report, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de rapports qui sont faits aujourd'hui par des fondations X ou Y. Les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, mais tous pointent, comment dire, vers la même direction, c'est que grosso modo, le marché du spatial ou l'industrie a grosso modo doublé en chiffre d'affaires en 5 ans. Est-ce que peut-être tu peux nous creuser un peu plus sur ce point-là, parce que je pense que c'est important de comprendre ce problème. Parce que ça me rappelle, et avant de te redonner le micro, il y a une dizaine d'années, lorsqu'on a commencé avec certaines personnes ici à s'intéresser à l'impact environnemental des technologies numériques, on nous disait c'est tout petit en pourcentage du PIB ou en pourcentage des émissions globales de gaz à effet de serre, sans regarder vraiment la trajectoire de croissance. Comment, selon vous, Julien, Sabrina, comment on doit dès maintenant prendre en compte cette trajectoire de croissance, la mode, l'effet de mode qui est autour de ce spatial et notamment de la partie aval, pour prendre des décisions qu'on ne regrettera pas dans 30 ans?
Non, mais vaste question auquel j'ai encore une fois pas complètement la réponse. Si ce n'est que voilà, considérer vraiment ces deux aspects, à quoi est-ce que ça sert? Est-ce qu'on a des équivalents terrestres? Et en fait, pour les méga-constellations, on a des équivalents terrestres. Il y a un article avec notamment, un article qui est sorti en septembre 2023 qui essaie de quantifier justement cet écart entre quelles sont les émissions associées à un réseau terrestre, à celui d'un réseau satellitaire. Avec, voilà, on peut intégrer différentes choses, justement ces particules d'atmosphère ou pas. Et donc, dans le scénario le plus néfaste, là où on prend en compte l'ensemble des effets, cet article montre en fait qu'on a un impact qui est 31 à 91 fois supérieur pour les méga-constellations pour un équivalent terrestre. Et donc là, on montre bien qu'effectivement, quand on envoie quelque chose dans l'espace, ce n'est pas anodin, on a une dépense énergétique qui est importante. Si c'est pour quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que c'est utile? Si c'est le cas, effectivement, investissons ces ressources et ces émissions. Mais si c'est pour quelque chose qui existe déjà sur Terre et qu'on a en plus un impact qui est supérieur, peut-être que ce n'est peut-être pas si utile que ça.
Format dynamique, alors je fais la dynamique. Juste pour apporter un éclairage sur les méga-constellations versus terrestres, en fait, on a un problème de géographie, de couverture, c'est-à-dire que les méga-constellations, je ne suis pas une défenseuse des méga-constellations, mais juste pour dire qu'on ne peut pas comparer à la couverture terrestre, parce qu'en fait, ça vient en complément de couverture. Ça vient exactement où il n'y a pas encore de terrestre, où il n'y en aura peut-être jamais. Donc c'est juste changer un petit peu ce regard-là.
Ben, je suis pas complètement d'accord. Enfin, effectivement, la couverture est un peu différente. Pour autant, une grande partie de la couverture est quand même similaire. Et c'est pas parce qu'il y a quelques applications à la marge que ça justifie n'importe quoi. Certes, données Internet dans des zones blanches, que ce soit au fin fond de l'Afrique ou en Antarctique, c'est complètement louable. Pour autant, ça ne doit pas justifier toutes les dépenses énergétiques et en termes de ressources qu'il soit. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'important, mais c'est la manière qu'on pourrait dire que regardez, l'IoT, c'est génial parce que ça permet des applications incroyables en médecine. C'est très bien de sauver des gens. Pour autant, est-ce que ça implique des émissions faramineuses? Je ne pense pas.
Oui, tout à fait. Et dans le spatial, effectivement, il y a différentes solutions. Il y a les géos, il y a les constellations plus limitées et il y a les méga-constellations. Et effectivement, tout ça vient en complément de couverture avec des solutions différentes et des impacts différents. Et juste un mot sur la régulation peut-être, puisque comment on régule, il y a les grands organismes internationaux qui sont effectivement avec des adhésions volontaires, comme l'ITU qui régule les fréquences, les ADC dont Lionel a parlé, il y en a d'autres que je ne connais pas bien, peut-être que mes collègues pourront compléter. Et après, au niveau national, la façon qu'on a de réguler ça, c'est via l'ouverture du service sur la France, en fait, et au niveau européen sur l'Europe, en disant si vous ne respectez pas un certain nombre de critères environnementaux et de bonne gestion durable de l'espace qu'on impose, alors vous n'aurez pas accès à notre marché, c'est-à-dire vous n'ouvrirez pas votre service sur notre sol. Donc ça, c'est la façon qu'a la France de réguler l'accès au marché français de ces constellations et par extension au marché européen, puisqu'on est en train de travailler sur une loi spatiale européenne en ce moment, qui est espérée pour un jour.
Et donc tu es Sandrine et tu travailles au CNES. Alors, vous le voyez, merci Sandrine. les enjeux sont larges et sont complexes. Évidemment, on ne peut pas les traiter au cours d'une question, d'une séance de questions-réponses de 25 minutes. Et on ne peut pas demander la Lune. Enfin, ce n'est pas du tout un jeu de mots. J'ai vu à nos intervenants aujourd'hui. Néanmoins, cette première partie, et Sabrina, je vais te laisser doucement conclure, visait à montrer en fait la complexité des enjeux, à quel point il y a des angles morts, à quel point également ça peut faire débat, afin de comprendre comment on peut se mettre en mouvement collectivement. Sabrina, on s'est dit un petit mot, tu voulais insister sur un point important, sans doute.
Alors en fait, pour moi, ça rejoint aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire en fait dès maintenant. Donc bien sûr, il y a tous les rapports, tout ce qu'on va faire, tous les critères, les leviers qu'on pourra faire agir, on va dire, sur notre industrie spatiale, en amont, en aval. Et après, il y a quand même le problème, on parle d'environnement, de satellites et environnement, il y a ce qui se passe déjà actuellement dans l'espace. Donc il y a les régulations, en effet, qui est, comme ça a été dit ce matin, c'est bien le CNES, c'est la France qui a d'abord voté une loi. Mais c'est vrai que ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a quand même beaucoup de satellites morts dans l'espace, et on se pose pas la question de qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment on pourrait faire, et c'est en fait le deuxième volet, ce qui est assez, c'est quelque chose que tu as écrit également dans le rapport, hein, que le spatial avait le germe de sa fin en elle, avait à cause de ces débris qui commencent à arriver, c'est de se poser la question, bon, bah, on va essayer de changer beaucoup de choses, mais toutes ces missions qui sont lancées, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc c'est de réfléchir à comment tacler avec le spatial même, les futurs satellites, avant qu'ils deviennent des débris. Et donc ça veut être du coup de réfléchir dès maintenant pour moi à comment en fait on va concevoir ces véhicules pour que de manière intelligente et qu'on le fasse de manière consciente de l'environnement et de manière consciencieuse pour qu'on puisse avancer là-dessus.
Merci beaucoup. Donc moi, je suis Laurence Monoy-Smith et je suis directrice du développement durable au CNES. On discute souvent avec nos interlocuteurs et c'est vrai que les sujets sont très techniques. Je voudrais dire deux choses. Ça fait 30 ans qu'on travaille au CNES dans la communauté internationale sur le sujet des débris spatiaux. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on découvre. Vous allez me dire, ça fait 30 ans qu'on bosse dessus, on peut pas dire que ça a été très efficace, on est d'accord, mais enfin bon, regardez ce qui se passe à la COP, ça fait 50 ans qu'on travaille sur le sujet, regardez où on en est. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes en multilatéral au niveau international, les discussions sont extrêmement complexes, mais ça fait 30 ans qu'on travaille dessus. Donc il y a quand même, et y a quand même beaucoup de réflexions, je peux pas rentrer dans les détails, mais alors un peu trop à mon sens de techno-solutionnisme, mais il y en a, bon. Et d'autres approches qui sont plutôt liées aux analyses de cycle de vie, au calcul d'empreintes. Donc je suis assez d'accord avec Julien, le secteur spatial est assez en retard par rapport à d'autres secteurs. Typiquement, je parle de filières, hein, de filières industrielles. Il y a des filières qui sont bien plus en avance que le secteur spatial. Qui ont entamé leur trajectoire de décarbonation et qui ont des trajectoires de décarbonation qui sont déjà sur la table et qui ont été avalisées par les comités de filière. On va faire ça, ce travail-là avec la filière spatiale à démarrer, et il démarre notamment sur des problématiques de connaissance. Et c'était vraiment ça que je voulais quand même dire, c'est que par rapport à d'autres secteurs, le secteur spatial a un défi en termes de connaissance qui est quand même assez abyssal. Nous savons aujourd'hui ce que nous ne savons pas, et Louis en parlera tout à l'heure, notamment sur la question des bilans radiatifs, mais ou sur les sujets de réentrée, etc., sur lesquels on avance. Et donc dans ce domaine-là, la filière est quand même extrêmement consciente. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les chiffres qu'on donne sur l'empreinte. Et on va parler d'empreinte carbone, parce qu'après, il y a d'autres empreintes, il y a l'empreinte matière, l'empreinte eau, etc. Quand on parle d'empreinte carbone, c'est quand même que le démarrage. Les chiffres que l'on donne et que j'entends, moi, sur l'empreinte carbone des satellites ou peu importe, sont tous faux. Mais tous. Donc, tous pour une raison extrêmement simple, c'est que les ordres de grandeur sont variables de l'ordre de 1 à 10. D'un satellite à l'autre, d'un type de satellite à l'autre, nous avons des grandeurs qui sont sans commune mesure. Donc aujourd'hui, le travail qu'on est en train de faire, et je pense qu'on sera prêt d'ici 4-5 mois, parce qu'on travaille avec la communauté scientifique aussi, qui s'est emparée de ces sujets, de savoir la communauté scientifique qui passe, nous on travaille beaucoup au CNES avec eux, notamment un certain nombre qui définit les missions scientifiques qui sont à venir, sont aujourd'hui dans un travail de fourmi extensif, extrêmement pointu, d'évaluation de l'empreinte des différents types de satellites. D'ici quelques mois, on sera capable de mettre sur la table des ordres de grandeur partagés par la totalité du secteur. scientifique, secteur industriel. Pour arriver à mettre ces grandeurs sur la table, ça a évidemment demandé beaucoup de travail. C'est en phase de validation et on pourra ainsi sortir des choses qui soient un petit peu raisonnables. Et notamment, pour éclairer les choix des décideurs, comme Julien, tu appelles à le faire et on est assez d'accord, de mettre sur la table, ben voilà, finalement, pour tel type d'usage, nous avons tel type d'empreinte et nous avons tel type de choix possible.
Merci Laurence. Attends. Merci beaucoup pour cette intervention, Laurence. Julien, Sabrina, je vous laisse peut-être résumer ou en tout cas conclure sur un point avant que je vous annonce la suite avec de la journée.
Oui, non, en deux mots, enfin, pour moi, pour essayer de questionner correctement le secteur spatial, comme tous les secteurs, et j'insiste vraiment sur ça, c'est vraiment comme tous les secteurs. Il faut questionner donc à quoi est-ce que ça sert, quelle est l'utilité sociétale et quel est son impact environnemental. Ça, c'est vraiment la trame de fond qui doit questionner qui doit orienter nos questionnements. Après, effectivement, ça va impliquer d'investiguer sur quels sont l'impact des particules dans notre atmosphère, quels sont les procédés utilisés, comment est-ce qu'on peut mettre toutes ces informations dans des bases de données comme celle de l'ADEME, qui sont à l'heure actuelle pas forcément dédiées au spatial, et donc il y a peut-être un besoin de travailler entre le CNES et l'ADEME pour enrichir tout ça. Le rendre open source pour qu'on puisse travailler plus rapidement là-dessus et donc essayer de quantifier plus correctement quels sont les impacts. Je pense aussi qu'il faut quand même rappeler que le spatial, en absolu, c'est quelque chose qui est assez faible, c'est important de le rappeler, que les méga-constellations, effectivement, on n'a pas encore ce problème au niveau européen, on n'a pas de tourisme spatial, donc le spatial européen et le spatial américain sont très différents et il faut que ça le reste. Il faut que ça le reste, c'est important. Du coup, pour que ça le reste, il faut qu'on se pose correctement ces questions dès maintenant. Donc voilà. Ça, c'est aussi pour éviter qu'il y ait un space bashing qu'on peut avoir sur l'aéro. Donc, il y a vraiment des questions aussi de résilience pour la filière, à mon sens. Donc, une fois qu'on aura posé toutes ces questions correctement, effectivement, je pense qu'on pourra aller de l'avant et on pourra potentiellement rattraper d'autres secteurs comme ceux de l'eau qu'on évoquait juste avant. Mais voilà, donc je suis extrêmement ravi d'être invité à cette conférence aujourd'hui et que des acteurs clés comme le CNES et l'ADEME collaborent sur ces sujets.
Merci, Julien. Et Sabrina.
Moi, je vais un peu mettre en écho ce que tu as dit aussi. Hein. C'est vrai, après, moi, je travaille plus sur les missions, on va dire, l'utilité du spatial. Donc, c'est le pourquoi on fait cette mission et comment on va le faire. Et c'est bien que maintenant, on se pose les bonnes questions. Je sais que ce n'est pas un sujet facile, loin de là. Mais c'est vrai que le petit bémol que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on avance lentement sur le sujet. Ça fait très longtemps, en effet, que le CNES travaille, l'Europe, dessus. Et je trouve que même pour les régulations, tout est lent. Et je trouve que c'est juste un peu dommage. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, mais je pense qu'il faudrait vraiment maintenant avancer clairement sur les régulations pour qu'on puisse vraiment avoir des choses concrètes qui se mettent en place. Parce que c'est vrai que moi, ça va faire 10 ans que je travaille. Et donc, déjà, pour moi, c'est lent. Alors, je peux imaginer pour ceux qui sont dessus depuis 30 ans, ça doit être encore pire. Donc, j'espère vraiment de voir cet élan et je sais que l'industrie spatiale y arrivera.
Merci. Ce n'est pas fini, on va bientôt partir sur la suite de la conférence. Mais avant, j'aimerais donner le micro à mon ami MC Dadiouk.
Bonjour, bonjour, cher Julien, chère Sabrina, cher Toufik. Bien le bonjour à tout le monde. Alors, je suis un petit peu prétentieux. Mais je pense que j'ai la prétention d'au moins contrôler l'univers dans lequel j'officie, n'est-ce pas ? Je suis, paraît-il, le meilleur improvisateur de la Terre. Quand j'aurai fini de parler, vous aurez le droit de me donner un mot, et avec ce mot, je tenterai d'apaiser peut-être ces esprits mis en apesanteur par une guerre des chiffres qui n'est pas sur BFM TV. Pour une fois. Je sais que vous irez en vacances ensemble, mais peut-être pas dans une navette SpaceX. Auriez-vous un mot pour moi, cher Julien ?
Satellite. Satellite,
pardon. Satellite. Satellisé, nous le sommes, mais nous ne l'avions pas encore compris. Socrate, lui, avait beaucoup d'avance. Et les satellites ont décidé d'être au-dessus de nos têtes. Et moi, le Parisien, j'ai l'impression que le périph est à nouveau à la fête. Une critère 3, 4 ou 5 devrait peut-être être placée pour certains satellites sur des orbites éloignées. Et je pourrais demander à mon ami Anne Hidalgo de me donner des leçons qui me permettront de comprendre comment réguler le passage des satellites autour de nos têtes. Enfin, soyez quand même un peu modestes dans vos accusations, peut-être vos injonctions à donner des chiffres au CNES, car ces derniers sont quand même sur un univers qui ressemble à un Far West que nous avons déjà connu.
une ruée vers l'or bleu ou l'or noir, car je ne sais pas quelle est vraiment la couleur de l'univers. Est-elle aussi sombre que les idées de nos amis Bezos et Musk ? Ou est-ce que le Musk a déjà tellement salopé l'univers qu'on est en train de se demander où est-ce qu'il va s'arrêter ? Rassurez-vous, le X n'est pas encore placé dans l'espace, mais sait-on jamais ? Avec lui, tout est possible. L'infiniment grand a trouvé une finitude, et je suis bien heureux d'être français, car encore une fois, nous avons été les précurseurs de nouvelles pensées sur l'espace. L'espace, le temps, l'infini, j'ai pensé l'espace et puis je n'ai pas écrit sur ce papier qui m'a été donné par Clotilde, mais j'aurais pu écrire ceci. L'espace n'est pas fini, l'espace vient que de commencer. Alors si on est au début d'une belle histoire, on devrait peut-être commencer par y poser des règles, mais surtout, comme le petit prince, ne pas s'empêcher d'y rêver. Rêvons d'espace et ainsi nous serons capables de le partager. Et les querelles que nous avons entre les chiffres et la vision seront effacées par la clarté stellaire d'une constellation de satellites qu'on saura peut-être contrôler. Peut-être, hein, je ne sais pas. Merci. Je vous en fais une petite deuxième parce que la deuxième sera plus courte. Mais c'est parce que j'étais assis à côté des gens du CNES. Et donc du coup, j'ai eu droit à deux conférences pour le prix d'une. Je trouve ça génial. Vous pouvez les applaudir. Ah oui, moi je suis la voix des gens qu'on n'entend pas forcément. Hein. Eh, les gens du premier rang, des fois, ne sont pas entendus. Ouais. Chère Sabrina.
Je vais dire environnement.
L'environnement. L'environnement est donc troublé. Troublé par des sachants. Troublé par des gens qui ne savent pas jusqu'où cet environnement s'étendra. Eh oui, de 1 à 10, c'était l'échelle de Laurence. Mais c'est une échelle que l'on peut voir qu'en France. Qui vous dit que les gens aux États-Unis ont cette même échelle de calcul pour savoir si dans l'environnement, leurs satellites en redescendant finiront par faire des choses pourries ? On ne sait pas. C'est comme un peu la géométrie. Je vous rappelle, le Dijonnais que je suis est heureux de voir la tour Eiffel. La tour Eiffel dans l'environnement d'Eiffel, c'était 1000 pieds. Vous voyez que je me suis moi-même trompé. Un 1000 pattes pourrait donc monter la tour Eiffel si on pensait en pieds, mais on est en mètres ici. Alors, il va falloir changer notre vision de l'environnement et se dire que l'infiniment grand se trouve au-dessus de nos têtes et pas à nos pieds. Oui, il y a un gars qui a eu des problèmes en pensant que la Terre était plate. Il a fallu quand même qu'on arrive au-dessus de cette dernière pour constater qu'il ne s'était pas trompé. Je suis en train de vous dire la vérité. La vérité, c'est que l'environnement nous appartient, mais que l'espace, pour lui, ce n'est pas le cas. Oui, l'espace a commencé avant nous et finira certainement après nous. Donc il faut y penser pour protéger cet environnement et se rappeler que eh bien, le CLES, l'ADEME et la SERP, surtout la SERP, oui, l'ARCEP, oh pardon, je suis désolé, ma langue a fourché, lapsus révélateur de cette conférence à laquelle j'ai assisté du premier rang, le CNES m'a fait oublier les R mal placés. Alors l'ARCEP n'est pas une SERP qui me finira ici et peut-être me décapitera après avoir dit autant de bêtises. Censuré par mes propres bêtises, je suis obligé de vous quitter. L'environnement a donc été pollué par mes propres postillons, je suis donc obligé de me cacher.